Pascal Dibi, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes anthropologue, écrivain, enseignant-chercheur à l'Université de Paris 7. Ouais. Vous avez écrit, entre autres, « Le village métamorphosé, révolution dans la France profonde »,« Ethnologie de la chambre à coucher »,« La passion du regard ». Et un livre qui s'intitule « Le village retrouvé », essai d'ethnologie de l'intérieur. Mmh. Alors, la première question, toute simple, mais que j'aimerais que vous me développiez, c'est justement qu'est-ce que cette pratique de l'anthropologie, à votre manière ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est ce travail ? À quoi s'attache-t-il ? Et tout d'abord, d'où émerge cette pratique et ce regard ?
Oui, alors effectivement, l'ethnologie s'inscrit dans une tradition, j'allais dire, plutôt néocolonialiste au moins, puisqu'elle s'est pratiquée au départ en vue de l'Empire français pour connaître plutôt que les indigènes, le sous-sol et les richesses qu'on aurait pu en tirer. Et en fait, elle a filé un mauvais coton, c'est-à-dire qu'elle s'est orientée après vers la construction d'échelles raciales, vers la hiérarchisation des hommes et des femmes. Et finalement, elle s'est retrouvée dans un sale état, je dirais à la veille de la guerre, avec les lois anti-juives, l'antisémitisme, le racisme et finalement cette conception nazie de la pureté où il ne faudrait pas mélanger le bon grain et l'ivraie, c'est-à-dire une vision pastorale du monde tout à fait détestable où en fait on pensait qu'il y aurait des races supérieures, des races inférieures, etc. Donc on était vraiment mal barré et comme cette anthropologie-là avait été prise en main par les médecins plutôt, les médecins coloniaux, on s'est retrouvé dans une histoire absurde de regard sur l'autre en fonction de critères physiques qui étaient essentiellement chromatiques. La couleur de la peau faisait que plus on était foncé, plus on était inférieur, c'est-à-dire habité par le diable, si on y lit la chose jusqu'au bout. Et plus on était clair, plus on était près du chef suprême et de Dieu, d'une certaine façon. Donc on était bien ennuyé dans cette histoire-là. Et finalement, il a fallu effectivement une réflexion. C'est Lévi-Strauss qui l'a mené, mais c'est bon, c'est un ensemble de réflexions, où en essayant de trouver un moyen de pouvoir contourner cette anthropologie qui était complètement viciée justement par cette histoire coloniale. Lui s'est dit, mais en fait, on pourrait reprendre ce qu'il y a de scientifique dans la linguistique, puisque la linguistique, c'est comme les plantes, hein, les mots qu'on se passe, dont on hérite, ces mots qui migrent. Finalement, il s'est dit, mais peut-être que par le biais des structures justement linguistiques, on pourrait penser, sentirait autrement pour refonder un langage scientifique de l'anthropologie. Et ça a donné finalement le structuralisme, donc qui a commencé à fleurir, à se développer et à être, je dirais, la vision régnante dans les années 60. Et dans cette histoire-là, évidemment, le structuralisme ne menait qu'au structuralisme, d'une certaine façon. Donc à nouveau, c'est pas une impasse cette fois-ci, c'était une tentative de reconstruction, mais on s'est retrouvé à nouveau éloigné de l'homme, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'en voulant prendre de la distance pour justement ne pas se mélanger les pieds et être toujours dans une idéologie, en pensant que la science pouvait être neutre et mise à distance de l'autre, en fait, on l'a tellement mis à distance qu'on s'est mis à pratiquer du concept plus que de la réalité humaine. Et dans cette histoire, les années 68 sont arrivées. Le mot d'ordre de ma génération, c'était l'ici et maintenant. Donc on était vraiment dans le quotidien. Les colonies se sont effondrées, donc on s'est retrouvés recentrés sur l'Hexagone. Et d'une certaine façon, on s'est posé la question de savoir, eh bien finalement, si on s'étudiait nous-mêmes. Et alors, ça a été le grand moment, les années 70, de la question de l'ethnocide, c'est-à-dire de la mort des civilisations par la présence ou par la suprématie d'une autre civilisation sur des civilisations autres, différentes, etc. Et dans ce cheminement, nous, du côté, je dirais, de Robert Jolin, Pierre Clastres, Mallory, etc., ça a été une ethnologie beaucoup plus narrative. On s'est dit, mais dans le fond, ce qu'il faut, c'est peut-être poser la question en termes, je dirais, plus subjectif, et on pourrait imaginer, alors ça a été ma démarche, c'est-à-dire que je pense que de l'ensemble des regards subjectifs des anthropologues, on pourrait en tirer une vision plus objective des sociétés. Si vous mettez plusieurs anthropologues sur une même société, vous n'aurez jamais le même regard, mais vous aurez à chaque fois, en fonction des sensibilités des uns et des autres, un regard particulier. Et finalement, après, en relisant tout ça, on peut s'apercevoir que oui, la vision de l'autre, c'est bien notre vision à nous. Et alors, l'ethnologie l'ethnologie nous propose quand même des outils pour décrire les choses, et c'est ça que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire, quand je fais le village retrouvé dans les années 80, enfin la fin des années 70, je me suis retourné, je dirais, dans mon propre village, où j'étais pratiquement né. Et quand je dis ethnologie de l'intérieur, c'est la question justement du regard proche, et notamment du regard de l'intérieur. Alors comment on fait effectivement pour se débrouiller de cette pression sociale qu'il pourrait y avoir dans un village, jusqu'où on peut dire les choses, comment on peut les dire, comment est-ce qu'on peut éviter d'être à la fois le nécrologue de sa propre société et en même temps l'éclaireur du contemporain. Et donc c'est autour de ça, et finalement je me suis rendu compte que le village retrouvé, ça a été la description de la fin d'un monde, c'était la fin d'une société lente, d'une société paysanne, et en fin de compte j'appartiens au néolithique, c'est-à-dire que j'ai décrit cette société paysanne où on était encore lié à la terre, lié à l'espace, lié au foncier, dans des pratiques agraires qui dépendaient des saisons. Et ben c'est mort, c'est fini, ça n'existe plus, et il y a peu de temps, il y a 30 ans. Donc c'est pour ça que j'ai revisité mon village 30 ans plus tard. Et là, c'était un peu le pari, c'est-à-dire finalement, on nous a tellement parlé de l'an 2000 qu'on ne sait pas comment on est rentré dans l'an 2000. Donc on a cru longtemps que l'an 2000, on serait tous en salopette courage avec des fusées dans le dos. Et bien ça ne s'est pas passé comme ça. C'est beaucoup plus profond, de certaines façons, dans la mesure où on est maintenant des êtres greffés, des êtres appareillés, des êtres communicants, communicables, en communication constante. On aura bientôt des puces greffées sous la peau, ça me paraît évident. Mais on ne s'est pas rendu compte qu'on rentrait là-dedans. Et avec le village métamorphosé, donc, qui est sorti en 2006, j'ai revisité mon village d'une certaine façon. C'était les mêmes noms, les mêmes gens, sauf qu'on ne vit plus du tout de la même façon. Et que même dans le village, on ne vit plus, c'est-à-dire qu'on ne vit plus selon l'histoire du village, selon les saisons, selon notre culture bourguignonne, par exemple, mais que maintenant, on vit tous en réseau, qu'on vit tous à un niveau planétaire, et que mon voisin part en voyage en Océanie, sur Internet, plutôt que d'y aller vraiment, etc. C'est-à-dire qu'on a une espèce en même temps d'égalité dans l'accès à la connaissance par le biais d'Internet, et une utilisation, je dirais, quotidienne de notre boîte à lettres, où c'est plus le facteur qui apportait les nouvelles, avec qui on discutait, à qui on offrait un pot, etc. Mais dans le fond, on ouvre son Internet le matin et on commande. Maintenant, on fait son marché dans mon village pratiquement par Internet. Et on ne voit plus dans le village que des camionnettes de livraison de supermarchés ou les artisans qui viennent faire des travaux. Mais il n'y a plus un chat. C'est-à-dire que les choses ont tellement changé qu'on ne s'en est pas rendu compte. Et c'est ça qui m'a intéressé. C'est-à-dire, l'ethnologie, ça permet finalement de voir simplement par la description. C'est Wittgenstein qui disait « Notre société est tellement complexe que la seule solution pour essayer de la comprendre, c'est d'écrire, d'écrire, d'écrire. » Et quand on décrit les choses, on va au-delà de son regard, je dirais, construit. Et quand on ne hiérarchise pas son regard, ça permet de mettre à niveau des choses qui paraissent être éventuellement secondaires, ne le sont pas. L'humain mange et recrache, l'humain boit, etc. Et l'humain pense parfois, mais aussi fait des actes, je dirais, complètement inscrits dans une ritualité dont il n'a pas conscience. Et c'est ça où mon travail, en fait, travailler sur la banalité, travailler sur le quotidien, c'est se rendre compte que notre rapport au monde a changé dans sa temporalité même, et que le rapport aux gens et à l'espace n'a plus rien à voir avec la société néolithique dont je parlais tout à l'heure.
Alors vous nous expliquez, est-ce que vous pourriez nous développer ce regard-là de l'anthropologue que vous êtes ? Quel est ce regard qui est une observation sous un angle très particulier et qui s'applique justement aujourd'hui à nos propres sociétés. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est ce regard que vous essayez de développer, vous, en tant qu'anthropologue ?
Mais justement, c'est d'essayer. Ça demande beaucoup d'humilité parce que ça oblige à croire, à ne pas en croire ses yeux, dans le sens où. Ça oblige à ne pas en croire ses yeux, dans le sens où il s'agit de regarder jusqu'au bout les choses, jusqu'au bout de son regard. Et donc l'anthropologie nous donne ça, parce que finalement on a quand même dans le champ anthropologique, on a anthropologie alimentaire, anthropologie des minéraux, domestication des plantes, ethnobotanique, c'est-à-dire qu'on a des moyens, je dirais, je parlais tout à l'heure d'outils, des sciences qui se sont développées, la linguistique, etc., l'ethnolinguistique. Et donc quand on reprend nos manières de communiquer, notre société qui est beaucoup plus silencieuse qu'avant, c'est-à-dire qu'elle fait beaucoup de bruit par l'intermédiaire des amplis, écrit. Mais dans la réalité, les gens se parlent beaucoup moins qu'on se parlait avant. Donc, et en même temps, on n'arrête pas de se communiquer. Alors, je ne sais pas, les gens s'appellent pour un rien, pour un non. Je suis chez le boulanger, je prends l'autobus, je monte dans ma voiture, tout le monde s'en fout. Mais on le dit avec le téléphone pour essayer de se repérer comme ça dans un espace, parce qu'il n'y a plus d'amers, il n'y a plus de références traditionnelles qui permettaient de s'inscrire dans un univers, dans une cosmogonie particulière d'une culture dont tout le monde connaissait les codes. Et comme maintenant, alors moi je suis tout à fait enthousiaste, hein, c'est pas du tout une critique, mais simplement justement quand on la décrit, c'est là où on se rend compte des changements incroyables au niveau quotidien, où on est rentré dans des systèmes ou dans des rituels qui sont plus du tout les mêmes qu'avant, et même nos façons d'aborder l'autre, de communiquer avec lui, la religion, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire, la déreligiosisation de notre société, fait qu'on n'est plus à l'ombre de la paroisse, qu'on n'est plus inscrit dans un discours effectivement religieux, bon, qui était traditionnellement essentiellement catholique, mais on a des signes, on vit dans des signes. Si je regarde par la fenêtre, je vois des clochers, là, c'est immédiat. Et donc, mais je ne suis pas certain que les générations qui viennent sachent très bien ce que ça veut dire, ces clochers, à part des monuments conservés dans lesquels on peut faire des concerts de rock éventuellement, mais ce n'est pas vraiment ça. Et donc, l'anthropologue, c'est simplement, quand je disais tout à l'heure, je parlais d'humilité, c'est accepter l'idée qu'il faut décrire les choses jusqu'au bout pour qu'on puisse prendre compte justement de nos transformations. Et la transformation, c'est pas qu'on s'est mis à penser autre chose, c'est qu'on s'est mis à pratiquer d'autres systèmes de croyances. Alors, on a une grande croyance dans Internet, par exemple. Ça développe un rapport au monde très particulier qui implique une discipline incroyable, parce que si vous vous trompez de bouton, la machine ne marche pas. Donc, on peut être complètement décontracté dans la vie, sauf que jamais on a été inscrit dans des protocoles aussi disciplinaires qu'on l'est aujourd'hui. Toutes nos machines fonctionnent avec des petits boutons. Si on ne fait pas les bons gestes, elles ne marchent pas. Alors, pour ma génération, ça a été compliqué de se mettre à l'ordi, de se mettre au portable, etc. Mais si je prends mon fils, c'est naturel. Il appuie sur un bouton, ça marche tout seul. Lui, il fonctionne par sensibilité, par analogie avec les autres machines qu'il pratique, etc. Mais c'est la première fois au monde qu'on a cette machine qui nous gouverne finalement, qui s'appelle d'ailleurs cybernétique, c'était rien d'autre que ça, c'est l'idée de la gouvernance comme un bateau. Hein. Donc les cybernautes, c'est ça, c'est des navigateurs dans un espace sidéral dans lequel, qui est complètement virtuel. Alors vivre dans une virtualité, c'est une chose, vivre dans la réalité, c'en est une autre. Et finalement, on s'est atomisé, c'est-à-dire que quand on voit nos systèmes, là, une fois de plus, traditionnels qu'on connaissait, comme les repas traditionnels, on se mettait tous à table et on en profitait pour parler, etc. Maintenant, on grignote. Alors, on n'est pas vraiment responsable de ça. Derrière, il y a des grands groupes alimentaires qui nous poussent au grignotage pour qu'on passe notre journée à bouffer. Donc, on ne se met plus à table parce qu'on n'a plus faim, etc. Et d'une certaine façon, l'alimentaire s'est emballé. Alors ça donne ces milliers d'obèses qui sont en train d'arriver sur le marché, si je puis dire. Mais donc quand on commence à regarder les choses, on voit bien que même les silhouettes se transforment, les générations qui viennent font 1m80, 1m90, garçons comme filles, etc. Et ça paraît secondaire, mais ça ne l'est pas du tout, parce que ça implique derrière une transformation du mobilier, ça implique un rapport au corps qui est tout à fait nouveau, une cybersexualité qui n'existait pas avant. Donc les choses sont en train de se transformer. Finalement, l'ethnologue, lui, regarde comme ça, au niveau du quotidien, tout bêtement. C'est ça, quand je dis avec beaucoup d'humilité, c'est ça, c'est-à-dire il ne faut rien négliger de notre quotidien. Et si on le prend en compte, c'est-à-dire si je décris une journée entière aujourd'hui d'un quidam normal, ça n'a strictement plus rien à voir avec ce que nous avions comme journée il y a 20 ans. On est dans une autre aventure. Donc c'est un peu après coup, après le constat, qu'on se rend compte que les choses ont changé, quoi.
Alors justement, notre époque est celle des crises, les crises de l'environnement, les crises économiques, les crises dans les institutions, les crises au niveau de la science. Cette époque, donc, on voit ce qui disparaît. Très souvent, on ne se rend pas compte de ce qui apparaît, précisément parce que c'est le quotidien.
Oui, justement. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on est capable de voir que ce qu'on connaît déjà, mais on est incapable de décrire ce qu'on ne connaît pas encore. Alors on a des exemples comme ça. C'est pour ça que je dis souvent qu'on est actuellement dans une basse époque, au sens où on parlait du Moyen-Âge. C'est-à-dire ce moment où il y a eu de tels troubles sociaux en Europe avec les invasions dites barbares, les transformations des systèmes agraires, le passage de l'ère médiévale de l'ère romaine à la charrue médiévale, qui a carrément transformé le système de traitement traitement de la terre et puis finalement le paysage, etc., et l'alimentation et autres. Mais aujourd'hui, on est un petit peu dans cette histoire. Quand on regarde la vie quotidienne de chacun, il y a beaucoup de familles décomposées, recomposées, de demi-sœurs, de demi-frères, de machins, etc. Et en même temps, on se crée nous-mêmes des familles d'affiliation qui sont des réseaux, en fait. Et je constate qu'on peut vivre d'ailleurs de façon multiple, des histoires différentes et qui n'ont pas de rapport entre elles. Donc ça, c'est nouveau aussi, cette histoire-là. Et qu'est-ce que ça va donner dans le niveau social? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est passionnant. Je pense qu'on est ni plus con ni moins con qu'avant, mais on est autrement. Et il ne faut jamais oublier que les systèmes sociaux sont inscrits dans un continuum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, il y a une transformation, et on ne se rend pas compte quand les choses se transforment, puisqu'on les vit. Mais en réalité, c'est justement où l'ethnologue, quand il s'arrête, il prend une population qui peut observer 50, 60 personnes, et il commence à décrire de façon très précise comment ça se passe. Eh bien, on découvre que les Français font en moyenne 47 km de voiture par jour, que notre environnement ne correspond pas à ce qu'on... Enfin, dans la réalité, il peut ressembler à ce qu'on a connu, sauf que la façon de l'habiter n'a plus rien à voir. Et je prenais comme exemple les vaches qu'il y a dans les prés, dans mon petit village de Bourgogne, et je les voyais comme tout le monde, je voyais des vaches dans un pré. Et j'ai découvert que ce n'était pas vraiment des vaches, que ça ne s'appelait plus des vaches, ça s'appelle des UGB, des unités gros bétail. Donc c'est vraiment un bétail, je dirais, industriel, que toutes ces vaches sont les filles d'une seule mère. Et donc il y a une espèce de mère biologique qui est une vache qu'on a achetée à grands frais, qui est génétiquement parfaite et sur laquelle on va développer des cueillettes d'embryons. Donc on va la régler, on fait une cueillette de 18 à 20 embryons et on règle les autres vaches du troupeau sur les chaleurs de cette vache et on réinscrit, donc on fait des cultures d'embryons et après ce sont des vaches porteuses qui portent tous les frères et sœurs de la même vache. Alors évidemment, ça paraît, on se dit bon, hein, mais non. Et il faut savoir aussi que si les vaches n'ont plus de cornes, c'est que maintenant il y a des taureaux homozygotes qu'on a mis au point qui permettent de ne plus avoir de cornes aux vaches qui vont naître de ce taureau dont on a pris la semence, etc. Et c'est ce qu'on appelle les taureaux génomiques sur lesquels on a déjà traité l'ADN et dont on sait exactement les enfants qu'il va faire et le nombre de litres que vont produire les vaches qu'il va donner, etc. Donc c'est un rapport au corps, à l'autre, etc., complètement nouveau. Alors si je pense cet exemple de ce que j'appelle la philosophie de stabulation libre, en réalité, on se pose bien au niveau des humains la question de l'insémination artificielle, du portage, de la cueillette d'embryons. Enfin, on voit bien qu'on est là-dedans. Et c'est là où on va vers une... Moi, c'est ça qui me passionne absolument, c'est qu'on est rentré dans une histoire post-humaine dont on n'avait pas imaginé qu'elle serait possible. Dans la mesure où on peut aujourd'hui commencer à imaginer que notre corps peut être autre chose qu'un don de Dieu. C'est-à-dire qu'il peut être notre propre corps, qu'on en est maître. Et alors ça va donner, par exemple, je regardais tout à l'heure sur la plage à Saint-Malo, et j'étais étonné de ces jeunes filles blondes à l'allure un peu bourgeoise. Et quand on les voit en slip de bain, elles sont tatouées de partout. Alors le tatouage était réservé avant une catégorie de marginaux, de gens qui étaient en révolte ou de marins, comme on dit. C'était les marins qui avaient pris ça à l'imitation des Maoris ou d'autres, etc. Et aujourd'hui, non, c'est autre chose. C'est une inscription sur sa peau d'un vêtement indélébile, mais qui implique aussi une espèce de retour à la sauvagerie, pratiquée ou plutôt inscrite sur son propre corps. C'est ce qu'on appelle vraiment le vêtement incarné. Alors c'est étrange parce que je voyais, il y a deux minutes, et je me disais c'est quand même extraordinaire cette femme qui a l'air d'une parfaite bourgeoise en fait, est tatouée entièrement sur le corps, donc il y a quelque chose avec cette relation à l'image, au traitement du corps, etc. Et quand on sait que nos adolescents qui sont dans un mal-être total, parce que justement il y a des problèmes de repères, hein, c'est un problème de repères, et qu'on découvre que les signes d'identité passent beaucoup par des blessures personnelles, mais des blessures physiques. Hein, j'avais publié un livre de David Le Breton il y a 10 ans qui s'appelait « Signes d'identité » où lui avait, après les statistiques, il y avait à peu près 4000 adolescents qui se scarifiaient dans les salles de bain pour se faire mal de façon à ce qu'ils sentent une réalité quelque part. Et depuis, on a réédité le bouquin, on en est à plus de 40 000 recensés. Donc il y a un vrai, vrai, vrai problème de rapport au corps, de rapport à soi. Et c'est en ça que je parle du post-humain, c'est-à-dire cette possibilité d'accepter l'idée qu'on puisse intervenir soi-même sur son propre corps en dehors de tout rapport moral au monde. Hein, c'est même plus contre la société, c'est contre soi-même. Donc il y a quelque chose qui est en train de se changer. Moi, ça me passionne absolument parce que quand on connaît les histoires justement de tatouages dans les sociétés traditionnelles, par exemple, si je prends les Maoris, au début, les Maoris n'étaient pas tatoués, ils étaient peints. Et les guerres se sont tellement amplifiées qu'ils se sont dit, plutôt que se peindre tous les matins pour partir à la guerre, on va se tatouer définitivement. Donc ce n'est pas une histoire très ancienne. Et le tatouage était tellement parfait que finalement, ils sont devenus chasseurs de têtes parce que les Blancs qui sont arrivés avec Bougainville, Cook et d'autres se sont dit, ces têtes tatouées sont tellement belles qu'on va essayer d'en rapporter puisqu'il y avait des têtes d'ennemis qui avaient été prises. Et il y a eu un commerce de têtes tellement important qu'on s'était mis à chasser le voisin pour lui prendre sa tête et la vendre à des collectionneurs. Et puis, il y en a d'autres qui en ont eu marre, ils ont cessé de se tatouer, il n'y a plus eu de guerre, puisqu'on ne cherchait plus la tête de l'autre. Donc on est dans des histoires tout le temps comme ça, et on s'aperçoit qu'à partir du moment où on passe son temps à envisager l'autre ou la nature ou l'environnement comme étant un lieu éventuellement qui pourrait avoir de la valeur et à se demander comment on pourrait l'exploiter, on le tue. Et par exemple, je vous donne un autre exemple. On vient de couronner pour le prix Bouvier un roman de John Vaillant qui s'appelle Le Tigre. Et l'histoire des tigres de Sibérie, ils ont été exterminés parce qu'en fait, on les tuait pour prendre la peau du tigre qui coûtait de plus en plus cher. Donc, on chassait de plus en plus le tigre pour vendre la peau du tigre. Et jusqu'au moment, on les a fait disparaître parce que la peau avait de la valeur. Alors qu'avant, elle pouvait avoir une valeur, je dirais, de prestige. J'avais tué un tigre, mais c'était un à qui ça arrivait de temps en temps. Et c'était devenu après pratiquement une industrie. Donc, on voit comment l'argent avait perverti complètement le rapport à l'espace et le rapport à l'autre. Donc c'est ça moi qui m'intéresse, c'est comment petit à petit on change notre rythme de vie, comment on s'inscrit à la fois dans une espèce de dégagement du social et en même temps comment on se réinvente sa propre histoire soi-même en pensant qu'on pourrait vivre seul. Alors jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu d'humanité vivant toute seule, mais est-ce que justement être sur Internet, être branché avec New York, Rio, tout un réseau, c'est peut-être une façon de vivre solitairement avec les autres. Donc c'est peut-être une autre notion laquelle on n'avait pas imaginé. Quoi.
Dernière question. Oui. J'ai perdu, j'ai perdu le fil. Est-ce que vous nous faites comprendre là qu'on passe dans une ère, il y a une sorte de saut,
de saut. Passe époque parce que c'est possible d'y passer. Passe époque parce que c'est possible de passer dans une autre relation au monde. Alors que jusque-là, il y avait la religion qui nous imposait des normes et des dogmes. Et là, il n'y a plus ni normes ni dogmes. Alors on voit par des systèmes effectivement de religions qui se proposent, effectivement, qui sont par exemple, si je prends l'islam, c'est le 13e siècle. Si vous preniez le christianisme au 13e siècle, il a été atroce. C'était les pogroms, c'était les croisades, ça a été des moments d'intensité religieuse et je dirais de réaction invraisemblable. Donc il faut aussi se réfléchir ces histoires de monothéisme qui ne sont pas dans les mêmes époques. On est à des temps différents. Et aujourd'hui, je pourrais penser que l'Occident est plutôt dans un moment d'art-religiosité. Et donc à ce moment-là, des choses sont possibles, sont permises, sont plus contrôlées par le système traditionnel.
Pascal Liby, merci.
Ben merci à vous.